Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Je viens d'écouter vos deux émissions sur le chômage. Je suis écœurée par l'indécence, l'hypocrisie de Monsieur Raffarin. Quel culot, quelle impudence, quel mépris de celui qui développe la politique libérale d'un gouvernement qui va jeter des milliers de chômeurs à la rue. Cet homme se permet d'aller se pencher sur les pauvres du Resto du Cœur et embrasser les tresses d'une petite immigrée dont les parents sont venus chercher quoi ? Sont venus chercher à manger. Une personne sur 10 en France vit en dessous du seuil de pauvreté. Je crois que la classe moyenne reste dans sa bulle et ignore totalement la détresse et le désespoir qui montent en France. Je suis enseignante. Et même si je suis très critique par rapport au débat sur l'école, j'y vais, je discute. Mais je me rends compte que l'on ne fait plus les bonnes analyses. On parle dans ces débats de violence à l'école. Alors on parle de la fin de l'autorité. Mais on oublie de dire que la violence scolaire est toujours la conséquence de l'échec scolaire. Et l'échec scolaire est la conséquence de la misère sociale. Et je crois que nous oublions un peu trop la souffrance sociale de pas mal de nos élèves. Or, le discours que je viens de donner n'est plus entendu, alors qu'il faudrait revenir sans doute aux analyses de Bourdieu. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion des classes moyennes est très grave. De la même façon, on n'arrive pas à expliquer l'OMC ou la GCS, car alors on nous traite de Cassandre vivant dans des fantasmes. Cette classe moyenne ne se rend pas compte qu'au train où vont les choses, elle sera bientôt touchée elle aussi dans sa bulle, comme en Argentine, ce pays qui a appliqué à la lettre le libéralisme économique dicté par le FMI. Je pense qu'en cette période de débat sur l'école, il serait intéressant de parler de l'inégalité des élèves devant l'école, et sur les problèmes sociaux, voilà. Parce que je pense que les analyses ne se font plus, et de moins en moins, et que nous avons l'air de ringards lorsque nous annonçons ces analyses. Voilà. Au revoir, merci, et continuez vos émissions, parce qu'elles permettent de réactiver nos consciences. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Laure d'Autun. J'ai envie de réagir à l'émission de ce soir, parce que j'ai écouté ça vraiment avec l'estomac noué de bout en bout, au point de demander aux enfants de se taire pour pouvoir écouter. Moi, je vous avais appelé l'année dernière pour vous signaler, pour vous dire mon désarroi, parce que je venais d'être remerciée, disons, d'un emploi que j'avais tenu 4 mois, et donc je suis toujours au chômage. Et c'est bien ça l'inquiétude que j'ai, c'est que on est vraiment, même moi qui appartiens quand même à un milieu assez favorisé, ben je sens que je suis en train de glisser dans une autre France, quoi. Je suis en train de me scinder même de ma classe d'origine, de mon milieu d'origine, simplement parce qu'on est dans une déroute, une déveine économique incroyable. Et enfin, bon, c'était pour vous faire part de cet étonnement, de cette scission là qui est en train d'arriver. Alors, je suis peut-être pas parmi les plus mal lotis, mais je me sens vraiment cette différence là tous les jours, l'écart qui se creuse, c'est effrayant. Enfin bon, merci. À bientôt.
Ça fait drôle. L'enquête du journal de 19h de France Inter, quand on avait bêtement laissé la radio allumée, comme on l'avait fait souvent depuis longtemps, mais qu'on arrête de plus en plus souvent, parce que annoncer que les baisses d'impôts, ça va commencer tout de suite, bon, ça prouve que les journalistes, normalement, ils gagnent de quoi payer les impôts. Et moi, c'est pas mon cas, et j'en ai rien à foutre que les impôts baissent pour les riches, mais alors vraiment rien à foutre. Et ce qui serait important, ce serait de parler de tous les gens qui ne payent pas d'impôts. Et moi, j'ai payé des impôts dans ma vie, et à chaque fois, j'étais ravi de payer des impôts, parce que quand je payais des impôts, j'étais un homme heureux. J'étais riche. Merci.
Lundi 8 décembre. Fête de l'Immaculée Conception. 2. Ouvrez les guillemets. Mon supérieur tombe de gain, mon supérieur tombe de gain, mon supérieur tombe de gain, mon supérieur tombe de gain. J'espère que vous aurez reconnu, malgré la médiocrité de mon interprétation, une chanson des Beatles, de John Lennon exactement, qui figure sur ce que l'on a coutume d'appeler l'album blanc. Voilà, parce que Le 8 décembre, c'est aussi le jour anniversaire de la mort prématurée de John Lennon. Happiness is a warm gun.
Happiness, happiness, bouf, bouf, bouf. On peut pas dire qu'on trouve beaucoup de happiness dans la boîte vocale de la basse. J'y suis. Aujourd'hui, on hésite entre deux mots, plombant ou révolté. Suite, pas seulement aux émissions, aux deux émissions d'hier et d'avant-hier, d'hier et de vendredi, sur le chômage et sur la réduction des allocations aux chômeurs et aux précaires, mais il y a quand même une ambiance générale qui est pas mal du tout, avec le journal Le Monde qui nous annonce que 22% des Français adhèrent aux idées du Front National. Peut-être y a-t-il une certaine relation entre cette accumulation de frustration et ce sondage. Ce serait possible. Nous le pensons, en tout cas. On va continuer aujourd'hui avec des témoignages de chômeurs. Et puis, on va passer un long moment avec le sociologue Robert Castel, qu'on a déjà vu hier. Mais qui, là, avec lui, on va essayer d'aller plus loin, repères historiques, situation générale, et des réflexions qui pas seulement techniques sur RMA, RMI, etc. Techniques, et pas seulement techniques, parce que ça peut paraître technique, mais évidemment que comme on va l'entendre dans les témoignages des chômeurs, ça prend ce que ça représente dans des vies. Mais je crois que c'est important d'essayer d'aller plus loin avec un sociologue comme Robert Castel. Merci à cette auditrice également, cette enseignante qui nous dit que notre émission, si c'était vrai, mon Dieu, si c'était vrai, sert à réactiver nos consciences. Le répondeur, d'autres messages, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel et son équipe, nous vous appelons ce soir, donc c'est le comité de soutien aux familles roms et Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme, le MORAP, l'ULCFDT, ATD Quart-Monde, la LCR, les Verts, à un grand rassemblement ce soir, donc à 18h devant la préfecture de Créteil. C'est pour soutenir les familles roms et imposer des hébergements durables et constructifs pour les familles du Val-de-Marne. Le 1er décembre, suite à un véritable harcèlement psychologique et en intimidant les familles, la préfecture ont réussi à faire évacuer tout un terrain de Rome qui était sur Créteil. Ces familles donc ont erré pendant plusieurs jours sur le département et sur l'Île-de-France. Et suite à nos demandes et à nos exigences, on a pu obtenir que ces familles soient pour l'instant installées dans des solutions précaires. Donc ça peut être dans des foyers sur Choisy-le-Roi, à l'hôpital de Limay-Grévanne, ou aussi à France, terre d'asile. Donc nous, ce que nous souhaitons ce soir, c'est vraiment que l'État s'engage effectivement à une véritable solution de relogement pour ces familles. Parce que nous estimons, Daniel, que les droits de l'homme sont indivisibles et que ce soit la liberté de penser, de circuler, d'avoir une éducation, l'accès aux soins ou d'avoir un toit. Il faut donc le clamer haut et fort, c'est pour ça qu'on sera donc ce soir, j'espère, très nombreux devant la préfecture. En France, à quelques jours de Noël, des centaines de personnes sont privées de l'ensemble de ces droits fondamentaux, et donc il nous semble qu'il faut une véritable mobilisation citoyenne pour permettre d'imposer des solutions durables pour ces familles. Ce soir, donc, à 18h devant la préfecture de Créteil, je vous remercie, salut et fraternité à tous.
Je téléphone pour signaler un fait. Je croyais que le RMI s'était fait pour tout Français qui n'avait plus du tout de revenus. C'est pas vrai. Le préfet a le droit divin sans doute, de vous le refuser. Et sans raison, ou pour n'importe quelle raison. Et c'est irrévocable, sans appel. Pour nous, c'est parce que nous sommes artistes peintres. Dans RMI, il y a insertion. Et les artistes, c'est bien connu, ne veulent pas s'insérer. Excusez-moi si mon chapeau vous fait de l'ombre. Excusez-moi d'exister, monsieur le préfet. Merci, au revoir.
Monsieur le Président du Patronat de la République, Messieurs les Ministres, Monsieur le Baron de France, entendez ici la requête du gueux François, votre humble sujet, quoique travailleur dilettante et chômeur libéré. S'il vous plaît, messire, supprimez nos allocs RMI et chômage, car ainsi nous n'aurons plus rien à perdre et nous ferons une révolution d'amour. La société de consommation nous tient, du bon mouton travailleur jusqu'au braqueur de banque qui ne rêve que de respectable commerce pour ses vieux jours. Rejetons tous ces bidules superflus, bagnoles, télé, conneries en tout genre, et alors on aura assez de pognon sans trop nous fatiguer et du meilleur air pour respirer. Certains auteurs pensent que l'Occident industriel devrait produire entre 3 et 6 fois moins si on ne veut pas bousiller la planète en quelques dizaines d'années. Dans ce cas, le chômage n'est-il pas un acte citoyen ? Vous me direz peut-être qu'on peut aussi travailler à réparer les conneries des industrieux, par exemple démazouter les plages et les oiseaux après les marées noires, ou encore combattre la misère dans une asso. Oui, c'est bien. Mais colmater les brèches du bateau capitaliste n'évitera pas le naufrage écologique annoncé. L'effet de serre devrait en effet provoquer la désertification d'immenses régions, donc la déportation ou la mort de millions ou milliards de personnes, et probablement l'effondrement de notre civilisation parce qu'elle est artificielle, avide et présomptueuse. Alors pour éviter ça, peut-être, désertons les boulots d'usines abrutissants, arrêtons notre frénésie de consommation et réapprenons le partage. Boycottons les produits industriels et le Paris-Dakar, faisons notre jardin, faisons du vélo ou de la musique et travaillons dans le bon sens du terme à faire ce qui nous plaît du moment que ça fout pas en l'air la planète. Remplaçons l'échange des marchandises par celui des cultures, remplaçons la production par la création, redécouvrons la poésie et tout ce qu'il y a de beau et de généreux. Mais en attendant que ce rêve se généralise, je tiens encore à vous dire, monsieur le président de la noblesse, messieurs les ministres, votre majesté Ernest Antoine, que je vous emmerde avec votre RMA et votre marché du travail et votre croissance. Et puis je vous emmerde tout court. Et vive la semaine des 8 heures. Mes hommages à la France d'en bas.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Claire Auter. Tout va bien.
Flight number 2, arriving from New York.
Je m'appelle Raymond et j'ai 56 ans. Je suis à mon quatrième licenciement. J'ai commencé à travailler à 16 ans, 2 mois avant mes 16 ans. Je me suis habitué à vivre, j'appellerais ça Ricky-Rac, quoi. Ricky-Rac, si vous voulez, au minimum.
Je m'appelle Isabelle, j'ai 38 ans, je suis mère de 2 enfants. J'étais responsable d'agence commerciale dans la distribution informatique. J'ai été licenciée en 2001 suite à une restructuration d'entreprise issue d'un rachat. A priori, à partir du mois d'avril, il devrait nous rester 3000 francs pour payer l'électricité, le téléphone et nourrir une famille de 4 personnes.
Je m'appelle Aïcha, j'ai 42 ans, je suis mère de famille de 5 enfants. J'étais caissière pendant 15 ans, donc c'est la première fois que je me retrouve au chômage. J'espère que je vais retrouver du travail. Mais si je retrouve du travail au SMIG aussi, un SMIGard, c'est comme un chômeur. J'étais au SMIG, j'avais des problèmes. Financièrement, j'avais des problèmes.
Vous démoralisez les ménages avec vos Frankenstein sociaux. Un auditeur a laissé un message ainsi exprimé. Vous démoralisez les messages avec vos Frankenstein sociaux. C'est peut-être pas aussi étranger à ce qu'il y a dans la tête de certains dans notre gouvernement. Quand un ministre dit « on ne peut indemniser le chômage indéfiniment », lorsqu'on dit « nous sommes dans une société de pétanqueur », on peut se demander si en effet il n'y a pas une volonté d'écarter, de culpabiliser, de faire disparaître par les chiffres, dans les chiffres, et puis de notre vue, ces Frankenstein sociaux. Manque de chance, c'est un peu tard, parce qu'on les connaît tous. Des Raymond Ricky-Rac, des Aïcha, des Claude, et ceux qu'on va, des Isabelle, et ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui, eh ben, on en connaît, si c'est pas nous-mêmes, c'est un frère, c'est un voisin, c'est un cousin. Toute notre société est hantée par cette inquiétude, hantée par cette insécurité. Nous sommes entrés dans une société d'inquiétude, dans l'insécurité sociale généralisée. L'insécurité sociale, c'est le titre du livre de Robert Castel, sociologue, qui, je vous le rappelle, est un observateur tout à fait pointu de l'évolution du travail, du monde du travail et des rapports sociaux, évidemment, puisqu'il est sociologue. Et vous avez été nombreux sur le répondeur. D'abord, nous donner des témoignages qui abondent et qui ne font que qu'accumuler ce que nous avons diffusé, les personnes que Claire a rencontrées. Mais vous avez été très nombreux à demander la référence d'une phrase de qui ? De Saint-Just. Saint-Just, qui est cité dans le bouquin de Robert Castel et qui dit, au moment de la Révolution, qui disait « Donner à tous les Français le moyen d'obtenir les premières nécessités de la vie sans dépendre d'autre chose que des lois et sans dépendance mutuelle dans l'état civil. » C'était le rêve de nos ancêtres des Lumières, de la Révolution, ce rêve, cette utopie a traversé le 19e, le 20e siècle et a abouti à ce que Pierre Bourdieu, puisque cette auditrice enseignante évoquait Pierre Bourdieu, appelait un monument historique construit par les hommes, par des tranches, des vagues successives d'hommes et de femmes qui se sont battus pour obtenir ce rêve, pour réaliser ce rêve de des Lumières. Et c'est ça qui est mis à mal aujourd'hui. C'est ça qui a poussé des chômeurs samedi dans les rues de Paris. C'est ça qui s'entend sur ce répondeur de là-bas si j'y suis. C'est ça qui hante ce spectre, qui hante l'Europe.
Yeah. Démarrer dans la vie, c'est en paquette à bien délire. Tempé, couchage, sur panier, attends, laisse-moi venir. En nom d'argent ou bien en paquette à feeling à bord. L'envoyeur qui est d'un snake ou qui a fait mes gueules. Sauf que tous les matins, faut que les vœux bonnet qu'on yo. Sauf que pendant yo qu'à siroter, les pompiers là. Pour fréquentation, on sait que mal est sur billet de l'na. Ou qu'à tout vœux qu'on imbécile ou pas à d'un rien. Ou tout petit, nous vend en paquette à gros massif. Mais comme ou tout petit, tout ça, ok, fait que tout petit. Alors faut faire qu'on voit ou qu'à foutre ça à côté. Watch me now. Yo B-Boy traverse l'Est, car tu es victime de stress. Ne laisse pas le Babylon, well, m'en t'a tenir en laisse. Ils t'ont baisé, c'est bien, mais maintenant c'est toi qui le baise. Par la suite tu verras quel radical tu seras à l'aise. ANPE, Agence Nationale pour l'Emploi. Parle même pas les dessins, ça qui fait moins, pète fil en moins. Mi anti-mélodie, frangin pour météo bien, aïe oui. Tu aurais été gardé ça, ou péqué fait pour bon mouvement. Ou pé toujours rasé, calmement j'ai tué qu'est mangofil. Écoute bien la version d'un MC qui a tout compris. Qu'un MC peut aussi avoir un esprit critique, utile, indélébile, un esprit fertile, une conscience positive. Watch me now.
Je me suis habitué à vivre avec les 5006, 5007 actuels. J'appellerais ça Rikerak, quoi. Rikerak, si vous voulez, restant de mon train de vie par obligation, si vous voulez. La nourriture, les sorties, on fait au minimum.
Voilà, Raymond Rikerak. C'est marrant parce que on l'a appelé Rikerak à l'antenne, Clérotère l'a appelé Rikerak et il nous a appelé en disant ben voilà maintenant je m'appelle Raymond Rikerak. Alors voilà, ça c'est vous vous souvenez de son témoignage hier, c'était particulièrement on va dire poignant, mais on a l'impression avec une voix comme celle-là, c'est le chômeur professionnel, c'est la voix du chômeur professionnel cette histoire, et ben voilà quoi. On s'est complètement habitué à cela. En 1975, politiques et syndicalistes s'accordaient encore pour juger qu'au-delà d'un million de chômeurs, des explosions sociales seraient inéluctable. En 1983, le gouvernement se fixait pour objectif de tenir la crête des 2 millions. En janvier 97, le chiffre officiel du chômage s'élevait à 3 250 000 demandeurs d'emploi. Au printemps 2001, il était d'environ 2 millions. Mais il a remonté depuis. Comment effectivement fait-on, il y a un auditeur qui pose la question, comment fait-on pour tenir face à ça? Comment se fait-il que si on accumule le chômage, la précarité, la pauvreté, en France ce que certains, vous vous souvenez, appelaient la fracture sociale, comment est-ce que ça, pourquoi est-ce que ça n'explose pas? Pourquoi est-ce que ça pète pas? Je vous rappelle le titre du journal Le Monde aujourd'hui, 22% des Français adhèrent aux idées du Front National. Il y a probablement un lien entre ceci et cela. On en parlera au printemps prochain avec les élections régionales, où à nouveau, on va être surpris de ce retour, de cette augmentation de notre monstre national. Alors, Raymond Ricayrac, pas seulement, je le disais, et on le sait, le chômage, la précarité et l'insécurité sociale touchent tout le monde aujourd'hui, la preuve.
Moi j'ai 33 ans, je suis conducteur de travaux dans le bâtiment, tout ce qui est gestion administrative des chantiers. J'ai été cadre, je gagnais bien ma vie, mais j'ai jamais eu d'appartement à moi. Donc je faisais partie de ces salariés qui travaillent, et même avec des très bonnes situations, qui n'arrivent pas à trouver d'appartement. J'ai rencontré des difficultés, on va dire, avec mon chef de service. Hein, parce que, bon, lui il magouillait, moi je n'acceptais pas qu'il magouille. Hein. Donc j'ai réussi à négocier mon licenciement. Bon, licencié, toujours à la recherche d'un appartement, hébergé à droite à gauche, ou alors dormant dans ma voiture, comme je fais depuis 5 mois.
Vous faites partie de ceux qui vont tomber dans le RMA?
Tout à fait. Qui vont tomber dans le RMA. Moi, je ferai partie de ces gens qui sont peut-être obligés de travailler à n'importe quel prix, puis sous n'importe quelles conditions, quoi. Et puis, bon, ça va être, pourquoi pas, un emploi plutôt de cantonnier ou des choses comme ça. Bon, à ce moment-là, quoi, ça sert de faire des études. Hein. À quoi ça sert de faire des études? À quoi ça sert d'avoir une expérience professionnelle? Avec toujours le problème que, on considère les rémistes comme des gens qui sont exclus. Exclu de la société, exclu de la normalité, exclu de pouvoir tenir des horaires ou des choses comme ça, parce que c'est un peu les discours qu'on nous tient. Hein. Alors on vous invite, ça c'est clair, on vous invite, parce que quand vous tombez dans la galère, les gens vous aiment bien, hein, c'est vos amis, ils ont quelque part de la compassion vis-à-vis de vous, tout ça, donc ils vous invitent à sortir, à manger, à des choses comme ça, mais il y a un moment donné où vous dites non, c'est fini la charité, quoi. C'est fini la charité. Avoir des relations sentimentales, c'est pareil. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Puis bon, c'est l'exclusion. Si les gens, avec toute la réforme de l'UNEDIC, sont pas aux ASS parce qu'ils n'ont pas travaillé 5 ans sur les 10 dernières années, ce qui est quand même le cas des 30 ans et moins de 30 ans, parce que sur 10 ans, travailler 5 ans, à l'heure actuelle, les jeunes de moins de 30 ans, ça m'étonnerait qu'ils aient cumulé ça. C'est plus qu'un exploit, même, parce que moi, j'en connais pas, honnêtement, j'en connais pas.
Surtout qu'on nous a invité à faire des études longues, en nous faisant miroiter au bout un résultat. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui. C'est que si on s'est mis dans des études pour un grand nombre, on a dû financer aussi ces études, c'est-à-dire travailler à côté. Parce que vous le savez très bien qu'une bourse d'études, c'est pas suffisant pour vivre. Donc, on travaille à côté, on fait des petits boulots. Des fois, on travaille au noir, donc il n'y a aucune cotisation, etc. Pour arriver au bout, après tout ce sacrifice, à ce qu'on ne vous reconnaisse pas sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, on nous demande de montrer qu'on est motivé, de montrer qu'on est des battants, de montrer qu'on est des chiens de garde du capitalisme, qu'à tout moment, on va tout prendre, on va tout subir, on va prendre n'importe quel travail, on est réactif. S'il n'y a pas d'emploi de cadre, ben on prend un autre emploi. S'il faut faire du télémarketing, allez-y. S'il faut aller soulever des parpaings, faites-le. Mais moi, les gens qui disent ça, j'aimerais bien les voir. Parce que tous ces boulots-là, nous, on les a faits. Et eux, qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau? Rien.
Ça va que ce que dit Mourad, c'est tout juste. Hein. Bon, on a beau vous dire qu'il faut commencer à la base, on va commencer à la base, mais bon, travailler, d'accord. À quel prix? À quel prix? C'est toujours pareil.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Retrait, tu es le mât. Un travail égal, salaire égal. Retrait.
Oui, bonjour Daniel, Mohamed. Je vous appelais Daniel parce que c'est pas compliqué. Je suis un jeune issu de l'immigration, même de l'immigration tout, immigré lui-même tout court, parce que j'ai arrivé en France à l'âge de 5 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur très reconnu et j'ai travaillé pendant 2 ans dans les grands groupes pharmaceutiques. Et ne trouvant pas de boulot et étant dans une situation assez difficile, puisqu'il faut bien payer le loyer, je pose des tuiles. Donc je suis revenu à ma place d'immigrer dans le système de l'emploi français. Je suis manœuvre en bâtiment, donc je travaille avec un Tunisien et un Portugais, donc on refait les toits des riches dans les grandes villes, et on refait et je voudrais savoir quel avenir je peux donner à mes enfants, quoi. J'aimerais bien savoir. Voilà. Salut Daniel.
C'est terrible, hein, ce message, et c'est emblématique. Ce garçon qui est sur son toit, qui prend son portable et qui nous raconte en 1 minute 15 une histoire tout à fait emblématique. Il est ingénieur, il est en train de poser des tuiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entend dans le témoignage aussi de Mourad. Je vous rappelle qu'on est à l'APES, l'association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et des précaires, qui réunit des chômeurs et des précaires, mais dans un esprit de contestation, dans un esprit de lutte, et même dans un esprit de politisation. On va pas se laisser faire, et on se défend et on s'explique.
Je m'appelle Mourad, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis actuellement en recherche d'un emploi, j'ai réussi deux concours de la fonction publique territoriale, j'ai un bac plus 5, je suis inscrit à la NPE, je fais des démarches pour chercher un emploi dans la fonction publique, je n'ai pas le droit aux ACEDIC. Je suis encore en train de me questionner sur la démarche d'aller demander le RMI, c'est quelque chose de très difficile, je n'en suis pas là encore. Déjà, la manière dont le RMI est présenté fait que c'est une situation d'échec si on en vient à obtenir ce revenu minimum d'insertion. Et ce revenu minimum d'insertion, il n'accomplit pas sa mission puisque c'est un revenu qu'on donne aux gens s'ils répondent à certains critères uniquement. Mais on ne cherche pas à recréer les conditions d'une insertion réelle dans la vie active. Moi, personnellement, l'idée de RMA, avoir un revenu dans laquelle il y a une contrepartie, c'est-à-dire une activité, on ne peut pas dire aux gens de travailler et de leur donner la moitié du SMIC, surtout pour 18 mois seulement, sans avoir au-delà de ces 18 mois une perspective quelconque. Donc pour moi, ce sont des manœuvres purement statistiques, pas des solutions réelles pour endiguer le chômage en France. On est dans une société où on n'a pas suffisamment travaillé sur la représentation de toutes les composantes de la société française. Il faut qu'un jour on cesse de dire que en France il y a que des Français qui s'appellent Daniel Durand. En France aujourd'hui il y a des gens qui sont là sans l'avoir demandé peut-être au départ, ou qui sont nés dans un processus de décolonisation avec des parents qui se sont retrouvés en France, etc., qui font partie de la société française aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc la violence face au monde du travail qui nous refuse, elle se retrouve aussi dans la rue avec nos concitoyens qui ne nous reconnaissent pas comme faisant partie du corps. C'est très important. Je crois qu'il y a un délitement des liens entre les différentes composantes de la société, entre les jeunes et les vieux, entre une couleur une autre, entre une religion une autre. Il vous arrive aussi, en sortant d'une administration, de rencontrer dans la rue une vieille dame avec son sac à main accroché à elle. Donc vous arrivez vers elle, elle prend son sac, elle se colle ça sur le cœur, comme si vous êtes encore un délinquant qui va lui sauter dessus, lui voler le peu de misère qu'elle a. Ça, c'est une violence aussi qui s'accumule à toutes les autres violences. Ça m'arrive en France. Depuis 3 ans que j'ai fini mes études, j'ai refait mon CV plus d'une cinquantaine de fois, et je n'exagère pas, même si je viens du sud de la France. J'ai travaillé notamment souvent en tant que commercial, et à force de vendre un produit et un service, on finit par apprendre aussi à se vendre. Et aujourd'hui, j'ai cessé de modifier ma manière de me présenter, notamment mon CV, mes lettres de motivation et mon discours. Je me dis que non, à un moment donné, il faut arrêter, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté aussi. Je suis de nationalité française, né d'un père français de droit commun, parce que pendant la colonisation, on faisait cette distinction. Et j'ai eu cette chance d'avoir un père né à l'île de la Réunion qui a vécu aux îles Comores dont je suis originaire. Donc il était français de droit commun, c'est ce que je suis. Et je suis français aussi dans mon être, dans ma culture, dans mes croyances.
Si vous occultez mon nom, ma pigmentation, vous oubliez tout ça de ma personne, vous vous rendrez compte, je suis un petit franchouillard de base qui mange du Beaufort, du Comté, qui connaît les petits vins de Provence, qui cherche à faire son petit trou dans notre société. C'est tout.
Aujourd'hui, ma foi, elle ne se réduit qu'à une relation culturelle identitaire. Et je suis de ceux qui disent, ne laissez pas aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. Cette phrase, elle me paraît utile, elle est très sereine. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, à défaut d'avoir une histoire commune avec toutes les souches de la population, les populations nouvellement arrivées, je pense qu'on pourrait avoir un avenir commun. Et c'est ça le plus grand défi aujourd'hui. On n'y pense pas assez.
Le patronat, ORMA, la bourgeoisie, ORMI, le patronat, ORMA, la bourgeoisie, ORMI.
Quand on écoute Mourad, on a un sentiment de gâchis. On a un sentiment de gâchis qu'un homme comme ça soit exclu, soit frustré, soit... Et c'est un gâchis pour lui, évidemment, qui rêve de rien d'autre que de faire son petit trou dans notre société. Mais c'est un gâchis aussi pour tous. C'est pour ça que la Pace a une belle formule, je trouve, qui dit « Nous ne sommes pas en trop, nous sommes en plus ». Et c'est vrai que le sentiment, ce qui est derrière, l'espèce de culpabilité dans les mots des uns et des autres qui nous ont parlé, qui ont parlé à Clérotaire, c'est ce sentiment d'être en trop, quoi, de pas faire partie. De pas faire partie.
Je m'appelle Claude, j'ai 37 ans. Je suis chômeur depuis un an et demi. Et là, je suis à la recherche d'emploi. Ça y est, je suis arrivé en fin de droit, là, je touche mon RMI. Je suis pas les informations, puisque moi, je suis SDF, je regarde pas la télévision. Comme le foyer, je suis à la Croix-Rouge en ce moment, il ferme ses portes à 9h. Bon, bah, je vais ici, je bois le café avec eux, on discute, en attendant que je trouve un emploi. Je compte faire de l'intérim, moi, pour l'instant. J'ai envie de faire de l'intérim. Préparateur de commandes, manutention. Parce que bon, j'ai pas de qualification. Et puis, en intérim, tu gagnes un peu plus que le SMIG. Et puis, moi, j'aime pas trop être en prison. Quand je signe un papier, j'ai l'impression d'être en prison. En disant que l'intérim, ça me convient, quoi. Là, ça arrange les patrons. Ils veulent pas embaucher les gens. Ils préfèrent prendre de la location de bonhomme. Bah ouais, c'est de la location, intérimaire, c'est de la location, c'est comme de la location de matériel. Comme ça, ils prennent un intérimaire, il est tout le temps, tu marches pas droit, tu veux pas te bosser, chut, on en prend un autre. Peut-être que même ça sera partout de la location après. Et puis bon, bah moi je vis le jour le jour, pas le jour le jour, on va dire l'année, quoi. Parce que bon, si je fais de l'intérim, je vais travailler un an, deux ans. Après, je vais me reposer un peu. 6 mois. Puis après, je vais me remettre à travailler. Et les ouvriers que je vois autour de moi, ils ont travaillé toute leur vie. Et puis ils se portent pas mieux que toi, quoi, en fin de compte. Il y a des gens que j'ai connus, ils ont travaillé à l'EDF, ils ont travaillé toute leur vie. Bon, ils ont, je sais pas combien ils touchaient de retraite. Leur retraite, ils sont quoi? Ils ont rien, ils ont pas de maison, ils sont enfermés chez eux. Puis ils attendent la mort, quoi, en fin de compte. Y a pas de soleil, quoi. Ça me motive pas. Mais... Ce qu'il faut, c'est de l'argent pour être heureux. Il faut de l'argent, quoi. C'est tout, quoi. Bon, j'ai 37 ans, mais moi, je sais que de toute façon, la retraite, je la toucherai pas, j'ai pas assez travaillé. Je sais comment je vais finir quand je vais être vieux, quoi. Moi, je vais me bourrer la gueule jusqu'à temps que j'en crève, je vais écouter de la musique et puis après, on me mettra dans le trou et puis on va m'enterrer. Voilà. Tout simplement. Et puis bon, moi, j'ai envie de me faire incinérer. Moi, je veux quelque chose de propre, quoi. Poussière, tu deviens poussière, c'est radical. Puis je veux pas de tombe. J'aime pas les tombes. Une belle fin. Pas triste, quoi, c'est normal, quoi.
Hein? Qu'est-ce qu'on en fera? Je les donnerai à mon frère et puis je lui dirai tu les mets à tel endroit, quoi. Ça sera un endroit où personne sait.
Mais moi, je suis une curieuse.
Mmh. Ça serait près d'une fontaine. Ouais. Faut bien que je me mette quelque part. Ouais, une fontaine. Ça fait du bruit. Une fontaine que j'ai côtoyée quand j'étais enfant, quoi. Dans la Creuse. C'est feuillu, il y a des arbres partout, et puis il y a des champs, ils sont tout en carré, les champs. Et tout autour, il y a des noisetiers, des ronces, des fougères. Il y a que des bois, et une petite fontaine.
La claire fontaine?
Ouais, on ira tous se promener.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque.
Regardez son nez s'allonge, il nous manque effrontément.
Il nous manque.
S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous manque.
C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous manque.
C'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous manque.
On fera pas de concessions, y aura pas d'arrangement.
Il nous manque.
Il nous promet des embauches, il y aura des licenciements.
Retrouve maintenant le sociologue Robert Castel, qui est auteur d'un petit bouquin, petit par la taille et par le nombre de pages, qui s'appelle L'insécurité sociale, dont on a déjà parlé, dans la collection La République des idées au Seuil, où Robert Castel évoque l'insécurité sociale et rappelle que l'insécurité sociale, pour lui en tout cas, n'entretient pas seulement la pauvreté, elle agit comme un principe de démoralisation, de dissociation sociale, à la manière d'un virus qui imprègne la vie quotidienne, dissout les liens sociaux et mine les structures psychiques des individus. Toujours des choses à mettre aujourd'hui en relation avec ce sondage qui sort sur les 22% de Français qui adhèrent aux idées du Front National. Robert Castel. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, insécurité sociale? C'est le titre de votre bouquin, L'insécurité sociale.
Justement, c'est le fait de ne pas avoir ce minimum de ressources et de droits pour se conduire dans notre société comme un individu doté d'un minimum, j'emploierai pas des grands mots comme la liberté, mais d'indépendance, de ne pas dépendre, par exemple, de l'assistance pour survivre lorsque un travailleur qui a travaillé toute sa vie ne peut plus travailler, comme c'était le cas, par exemple, avant l'institution du régime des retraites et qui se trouvait condamné soit à être aller croupir avant d'aller mourir à l'hospice, ou bien peut-être éventuellement pris en charge par ses enfants si il en avait. De toute façon, ça avait aussi un coût. Bon, voilà un exemple. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité sociale? C'est pouvoir avoir ses ressources pour maîtriser un petit peu son avenir, un petit peu plus concrètement, d'être assuré contre les principaux risques sociaux. Bon, tu tombes malade, mais tu as le droit d'être soigné et tu ne bascules pas dans une espèce de misère. Tu peux plus travailler, tu as le droit à la retraite, etc. D'ailleurs, j'aurais envie de, si vous permettez, de vous lire une petite phrase qui me paraît un programme merveilleux de lutte contre l'insécurité sociale.
Et après on dira
qui c'est après. Mais alors, je lis cette phrase. Nous le savons bien, créer nécessite une autonomie, un sentiment de pouvoir exercer sa liberté qui ne sont possibles que si on dispose d'une certaine sécurité face aux difficultés de la vie. Cela suppose que chacun soit protégé contre les différents risques qui naissent de la maladie, de la vieillesse, du chômage ou de l'exclusion. D'ailleurs, si j'avais eu connaissance de cette phrase, je l'aurais sans doute mise en exergue de mon livre sur l'insécurité sociale. Alors, elle est, puisqu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César, oui. Elle est de Monsieur Jacques Chirac et elle a été prononcée le 23 juin 2003. Et voilà, donc c'est parfait. Ça, nous avons à la fois quelqu'un qui a, en principe, l'autorité d'appliquer ce programme. Et alors, il n'y aura plus d'insécurité sociale.
Je voudrais qu'on continue quand même sur votre bouquin, parce que vous nous surprenez un peu avec l'idée que vouloir être protégé pousse à un toujours plus sécuritaire. C'est quand même une contradiction. Et c'est quelque chose, évidemment, qui nous, c'est fait pour ça, hein. Ça nous pose, ça fait question. Mais avant de rentrer dans cette, ce toujours plus sécuritaire qui est dans la demande et la recherche de protection, qui est une chose normale, enfin, légitime, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la protection générale. Aujourd'hui, on parle de la protection des chômeurs, de la maladie, etc. Vous dites tout de suite dans votre bouquin, en commençant, que jamais on a été autant protégé qu'aujourd'hui dans l'histoire, parce que vous regardez un peu le temps long et vous dites non, on n'a jamais été aussi protégé qu'aujourd'hui. Alors comment on était protégé auparavant ?
Ben, d'abord, il y avait avant l'établissement des systèmes modernes de protection, ce qu'on peut appeler la protection sociale, la sécurité sociale, il y avait des protections que l'on pourrait appeler des protections rapprochées. Hein, le fait, le contexte familial, le voisinage, et même d'ailleurs des rapports de dépendance, à la limite, pour provoquer un petit peu, je dirais, le serf était protégé par son seigneur, et c'est vrai que souvent, en période de famine, les seigneurs ouvraient leur grenier, d'ailleurs ils y avaient intérêt pour que leur serf, d'ailleurs en même temps, ne crève pas de faim. Mais c'est vrai qu'il y avait des protections, mais qui se payaient en même temps d'une immense dépendance.
Oui, c'est ça, c'est les cerfs qui faisaient le boulot.
Oui.
Donc il fallait qu'ils soient en bon état, qu'il y ait un peu de muscle sur l'os du cerf.
Voilà. Et de même, vaut mieux, même dans une société esclavagiste, ne pas laisser crever de faim ses esclaves. Mais là, justement, je pense que personne n'avouerait de la nostalgie de ce type de protection. Et justement, quand la société est devenue, avec ou sans guillemets d'ailleurs, mais peu ou prou démocratique, où les gens se sont vus reconnaître à tous des droits. Le système de la protection sociale est devenu une prérogative de l'État. Parce qu'on sait très bien, et on le reconstate aujourd'hui, si on laisse faire les intérêts privés, la recherche du profit, etc., bon, il n'y a pas de protection, c'est pas à ce niveau. Et c'est un des rôles de l'État, qui a d'ailleurs mis du temps à s'établir et à s'instituer, ce qu'on appelle l'État-providence ou l'État social, qui, d'ailleurs, pas tout seul, évidemment, et à travers des luttes sociales, à travers des compromis sociaux aussi, a assuré ce système, justement, de protection qui, en principe, s'adresse à tous les citoyens d'une démocratie comme la France, par exemple. Je crois que il faut prendre protection sociale en ce sens fort. Bon, la protection, c'est pas seulement l'assistance. Bon, c'est pas seulement donner des secours à des gens qui sont démunis provisoirement ou définitivement pour leur éviter une déchéance totale. Bon, sans doute, il faut le faire, et des mesures comme les minima sociaux, etc., ne sont pas critiquables en soi, puisque c'est préférable que de crever de faim. Mais ce qui me paraît essentiel dans l'idée de protection dans une société de notre type, c'est justement le fait que tous les citoyens d'une république, et ça vaut pour la France, mais ça vaut aussi pour d'autres pays, ça devrait valoir, bon, soit couvert justement contre ces principaux risques sociaux, que sont en particulier, pour citer d'ailleurs Monsieur Chirac, la maladie, l'accident, la vieillesse impécunieuse et quelques autres de ce type. On pourrait, je pense, ajouter le logement, qui est un droit au logement décent. Dans une société comme la nôtre, on pourrait dire, c'est la moindre des choses pour être un membre à part entière de notre société, c'est-à-dire capable de nouer des relations d'interdépendance avec les autres, de ne pas être relégué dans le risque du mépris, etc.
Le grand virage dans notre histoire humaine, c'est le moment où la sécurité sociale devient un droit. C'est-à-dire où la protection devient un droit, ce qui nous a permis, et c'était un vieux rêve qui se poursuivait, ce qui nous a permis d'échapper à la domination paternaliste du patron, au clientélisme aussi. Hein, je me souviens en Thaïlande avoir vu un gars qui se présentait aux élections et il distribuait une chaussure aux gens. Il dit, et si vous votez pour moi, je vous apporterai la seconde. C'est un cas de clientélisme réussi, enfin parfait, abouti, quoi, disons. Et puis, à la domination aussi du charitable, hein, de celui qui fait la charité. C'était ça, le droit. Je suis dans mon droit. Or, aujourd'hui, si on vit dans cette société, tout simplement, c'est bel et bien ces droits qui sont mis à mal.
Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue sur le droit, et en particulier sur le droit social. Autrement, il y a effectivement l'arbitraire, qui peut d'ailleurs être bien intentionné, ça peut être le calcul de ce politicien thaïlandais, mais ça peut aussi être, bon, des gens, tout le monde n'est pas méchant, enfin, on peut faire la charité aux gens, et d'ailleurs, ça a été longtemps le cas, mais justement, là, on est dans l'arbitraire et on est dans la dépendance. Et je crois que le passage, par exemple, la retraite, pour reprendre cet exemple, eh bien, c'est « j'ai gagné ». Parce que j'ai bossé pendant 30 ans, 40 ans, etc. Et c'est d'ailleurs ce que disait Jaurès, parce que certains de ses amis socialistes révolutionnaires disaient, bon, toute cette protection sociale, c'est réformiste, et puis ça empêche de faire la révolution. Jaurès disait, attendez un peu, d'abord, y compris pour faire la révolution, peut-être faut-il y avoir un minimum, justement, de ressources et de dignité. Et ce type de protection sociale, je crois, ne peut pas se réinterpréter dans une logique paternaliste, de dépendance, etc., et donc est un gain d'une sorte d'autonomie qui a d'ailleurs sans doute permis à la classe ouvrière aussi de se constituer, de s'organiser à travers la poursuite de ses propres objectifs. C'est pas nécessairement les gens qui sont complètement jetés, qui sont complètement dans le désarroi social qui représentent une force de changement. Il faut aussi sans doute un minimum, non seulement d'organisation au sens politique du mot, mais aussi un minimum de ressources pour développer des stratégies, y compris des stratégies offensives.
Est-ce qu'on peut parler de conquête sociale ? Nous, on aime dire conquête sociale. Ça veut dire que, quand on dit conquête sociale, on veut dire que c'est le peuple, enfin, c'est les ouvriers qui ont conquis tout ça. Après, on dit, il y a la conquête sociale, puis après, il y a les acquis sociaux.
Oui.
Ça nous a été donné, ou bien c'est les luttes qui ont...
Non, je crois que la protection sociale, ça a été un compromis. Entre autres, d'ailleurs, qui a économisé la révolution possible, mais de type de ce qui s'est produit, par exemple, en 1917, en ce qui est devenu l'URSS. Bon, ça n'a pas été une conquête ouvrière. Je crois qu'il faut le dire au dead-ball. L'histoire sociale ne permet pas de dire que ça a été une conquête ouvrière qui aurait affirmé, mis au premier plan et fait reconnaître ses propres objectifs.
C'est dommage, mais, parce qu'on aimerait bien.
Mais, non, mais je crois qu'il faut aussi ajouter que s'il n'y avait pas eu les luttes, s'il n'y avait pas eu des formes d'organisation collective fortes sous la forme de syndicats, par exemple, ce compromis n'aurait pas eu lieu. Et ça serait resté la situation de ce que Marx appelait, par exemple, le despotisme de fabrique, c'est une belle expression, pour lequel le patron, bon, il était souverain, peut-être d'ailleurs était-il plus ou moins méchant, plus ou moins bon, mais il y avait une souveraineté. Et je crois qu'il y a eu, effectivement, la protection sociale, c'est le résultat d'un compromis entre au moins, disons, trois forces, la classe ouvrière ou les salariés, au sens là, le patronat, qui a toujours été contre, évidemment, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un rapport de force, et l'État, qui n'a sans doute pas été un arbitre neutre, planant au-dessus des partis, mais néanmoins, par un souci de cohésion sociale, a fait des avancées. Il suffirait de rappeler, bon, je sais pas, j'ai jamais été gaulliste, mais justement, le général de Gaulle n'était pas un homme de gauche, mais correspondant à cette période de l'après-seconde guerre mondiale, il y a eu des acquis sociaux considérables, bon, qui ont été, je pense, le résultat, non pas d'une conquête de la souveraineté du peuple, mais un équilibre dans lesquels, finalement, en tout cas, je crois, même si c'est une position qui peut paraître réformiste, je la défendrai, parce que ça a été quand même un gain extraordinaire. C'est-à-dire que si on compare la situation des prolétaires des débuts de l'industrialisation, 14 heures par jour, vivant vraiment au jour le jour, et ce qui était devenu la condition du salarié moyen dans les années 70, bon, il n'y a peut-être pas une différence absolue de nature, le salariat demeure un rapport de subordination, donc on pourrait dire, d'une certaine manière, un rapport d'exploitation, mais, en contrepartie, il y a ces droits, ces ressources, ce qui fait que je crois qu'on peut, et même on doit parler de compromis social, et que c'est aussi ce compromis social qui risque de se défaire en ce moment.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Retrait, retrait, du RMA, un travail égal, salaire égal, retrait, retrait, du RMA.
Il y a peu de temps, on nous disait, il n'y a pas d'alternative, hein. There is no alternative, nous disait Madame Thatcher. Or, il y a quand même des gens qui se réveillent.
Oui, d'ailleurs, peut-être qu'il y a une ambiguïté sur le terme d'alternative. Peut-être n'y a-t-il pas d'alternative globale. Peut-être, en tout cas, nous sommes incapables de penser aujourd'hui une alternative globale au capitalisme, par exemple, si ce n'est sous la forme d'une utopie un petit peu vague. Mais par contre, il y a sans doute à la fois des pratiques alternatives et des réalisations qui sont des alternatives à la situation actuelle. Et encore une fois, je crois, bon, c'est peut-être que j'y insiste trop, mais du côté de la défense et de redéploiement et de la recomposition de nouveaux droits. Parce que l'un des aspects les plus inquiétants et même les plus tragiques de la situation actuelle, c'est cette perte de droits, cette perte de garanties, en particulier du côté du travail. Eh bien, instituer de nouveaux droits, c'est sans doute pas changer de société, mais c'est construire quand même une alternative à cette situation caractérisée actuellement par le progrès du non-droit, par exemple.
En vous écoutant tous les deux, et pour conclure, on est bien dans cette époque, en vous écoutant tous les deux. C'est-à-dire qu'on cherche en ce moment, hein. On est dans une époque où on cherche, il y a quelque chose qui est passé, mais il y a quelque chose qui va naître, et on tâtonne, tout le monde tâtonne. En ce moment, on l'a vu avec le Forum social européen, vous avez dû suivre évidemment tous les deux, et il y a eu un bouillonnement quand même formidable, hein, d'idées, de propositions, ça n'a pas été que de la parole quand même, on voit que ça tâtonne, et c'est, alors bon, espérons que quelque chose va sortir de tout ça, c'est votre impression, Robert?
Oui. Avec d'ailleurs le coefficient d'incertitude que ça représente, parce que c'est vrai qu'il y a, et c'est vrai que il y a beaucoup de gens mécontents. Il y a des gens, pour citer un philosophe, Eric Weil, qui sont mécontents de leur mécontentement. Enfin, qui se résignent pas. Ils voudraient, sortir de cette situation. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire, ça devrait déboucher. Je crois que si on veut être tout à fait honnête, y compris d'ailleurs à travers le Forum social européen, on dit que les voies de passage, de concrétisation de cela, elles sont pas encore trouvées.
Le cours de la bourse augmente aussi, mais qui se la misère récolte la colère. Et la lutte continue, vive l'action, vive l'action. Et la lutte continue, vive les occupations.
Voilà, c'était dans la manif de samedi, et ça fait un raccourci, ça résume tout ce qu'on a essayé de dire au cours de ces trois jours, entre, voilà, la Carmagnole, la Révolution française, et aujourd'hui, à travers les propos de Robert Castel, le sociologue. Je vous rappelle le titre de son bouquin, L'insécurité sociale. Il dialoguait avec Philippe Villechalane, qui est de l'APES, hein, je rappelle, l'APES, que nous remercions d'ailleurs, l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et des précaires. Vous trouvez tous ces gens-là et toutes leurs références sur Internet, entre autres. Merci aussi à Isabelle, Aïcha, Muriel, Raymond, Mourad, Claude,
et les autres adhérents de la PES. C'était un reportage, une suite de trois reportages de Claire Auter. Technique aujourd'hui Patrick Henry, Étienne Michka. Il faut que je me dépêche parce que le plus important arrive, c'est-à-dire la pub. Merci à Christophe Imbert, merci à Koyen Guyenne, merci à Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.